One, two, three, ho!
Ça se passe bien à la boutique?
Super, super, le coup de pouce vélo en ce moment, on a du travail. Hier, j'ai passé une demi-journée sur le vélo d'un charmant jeune homme qui m'a ramené à une vieille bouse.
T'es en train de parler de mon vélo, là?
Exactement.
Et les rayons en moins? Je vais faire comment, moi?
Eh ben, je te les ai facturés. Hein.
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission qui donne envie de sauver la planète. Alors aujourd'hui, on est à Alençon, il y a Céline, ça roule ?
Ça roule, très
bien. Mika ?
Ça va, merci.
Qui a réparé mon vélo. Et Camille, ça va ?
Nickel.
Bon, très bien. Alors tu disais, Mika, que tu avais pas mal de boulot avec les réparations de vélo grâce à la prime de 50 euros.
Oui.
Il y a un gars qui est venu avec beaucoup de vélos.
Ah oui, je pensais avoir beaucoup de vélos, j'en ai 7, mais lui il en a 11.
Parce qu'en fait, ça marche comment cette prime-là ? C'est qu'on amène un vélo, il est pris en photo, du coup, tu peux venir avec autant de vélos que tu as tant que tu le fais pas réparer deux fois, quoi.
Alors, en effet, tu peux pas le faire réparer deux fois le même vélo, puisqu'on prend en photo, il y a une facture, mais par contre, ils ont mis un quota, parce qu'il y avait un petit peu d'abus, et je crois qu'on est à 7 vélos, justement, maintenant, en quota.
Et pour chaque vélo, tu as la prime de 50 euros de proposer ?
Ouais, en fait, 50 euros sur le prix hors-taxe de l'ensemble des réparations.
Camille, tu nous as inspiré la dernière fois que tu es venue en tant qu'invitée, et maintenant, tu arrives comme chroniqueuse. Peut-être l'émission d'après, tu seras animatrice, tu vois, tu montes en grade très rapidement. Tu nous as raconté comment tu étais tombée à vélo, que c'était magnifique, ouais. La dernière fois. Eh ben, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table. Mika, c'était quoi ta plus belle chute, la plus rigolote ?
Ma plus belle chute, je crois que c'était lors de ma première course. Quand j'étais enfant, j'avais 14-15 ans, c'était un cyclocross. Donc un cyclocross, pour vous donner un petit peu, c'est de la boue, c'est de l'herbe, c'est de la route. C'est un vélo de route avec des pneus crantés.
Ouais.
C'est très propice à la gamelle.
Quand soudain,
en fait, ma première course, l'ensemble de la famille était venu.
À t'applaudir et tout.
Et là, j'ai un petit problème mécanique. Hein. Je me prends dans les rubalises, je perds du temps. Alors, je veux récupérer ce temps perdu. Hein. On est quand même sur une course. Et je mets tout ce que j'ai sur la partie bitumée.
Ouais.
Et à la suite de cette partie bitumée, il y avait deux grosses bosses. J'ai bien pris la première et je me suis écrasé sur la deuxième.
Et il y avait beaucoup de monde qui t'a vu ?
Je sais pas, j'ai fini à la Croix-Rouge.
Je me souviens plus.
C'était filmé quand même ou pas ?
C'était pas filmé.
Ah,
mais
dommage.
Je pense que c'est resté dans les mémoires collectives et familiales.
C'est génial. le vélo que tu m'as réparé, là, t'as dû régler les rayons sur la roue arrière. Donc c'est pas juste pour rire, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et la roue est voilée parce qu'en fait, ça date de ma dernière gamelle où en fait, je sais pas ce qui s'est passé. La roue arrière, elle est sortie de son axe et elle s'est bloquée direct. Tac! Et en plein milieu de l'avenue, paf, je suis tombé, les quatre fers en l'air, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et personne ne m'a vu. C'était une super gamelle, personne n'a filmé, personne m'a applaudi, rien, je suis tombé pour rien.
À refaire.
Ouais, obligé. Céline, toi, tu te rappelles un truc ?
Ça y est, ouais, ça m'est revenu tout d'un coup. C'était lors d'une soirée en famille. Et en voulant prendre une route à Alençon, j'étais pas trop à l'aise. Mon Dieu. Mon homme m'a dit que c'était l'alcool, mais bon, pas du tout. En fait, j'ai voulu remonter sur le trottoir pour pas avoir un véhicule qui arrive en face. Et j'ai pas pris le trottoir correctement. Je l'ai pris un petit peu, au lieu de le prendre de face, je l'ai pris sur le côté. Et j'ai réussi à me retenir, je sais pas comment, mais le vélo sur mon corps. J'ai eu des bleus partout. Et j'en étais pas très très fière. Parce qu'arrivée à la maison, je faisais celle qui avait pas mal. Mais en fait, le lendemain, je me suis trouvé des bleus, mais énormes sur toutes les deux jambes.
Il y a des gens qui t'ont vu, applaudi ou...
Ah non, c'était en pleine nuit, dans Alençon, t'imagines bien que déjà il y a beaucoup de monde, alors de nuit à 20h le soir, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y avait que mon homme qui a vu ma super gamelle. Oh. Et qui a eu peur quand même, quoi, parce qu'il s'est dit, mince, il m'a plus vu à un moment, j'étais derrière un véhicule.
Alors tu vas nous parler d'un truc incroyable.
Oui.
La plupart des routes qui ont été construites ces dernières années en France... Eh ben, on n'est même pas sûr que ça soit légal. La loi Laure. Est-ce que vous connaissez, Camille, Mika, la loi Laure ? Eh ben, moi non plus, je connaissais pas.
Ouais, ça s'appelle la loi inconnue. Alors, il était une fois une terrienne rêveuse, optimiste et qui croyait en l'humanité. Elle racontait à qui voulait bien l'entendre. Et oui, elle pouvait être un peu bavarde et volubile. Son voyage en Hollande et la découverte de ses routes débordantes de vélos, petits, grands, mélangés, dans une explosion de couleurs automnales fin octobre 2019. Ça paraît loin. Mais depuis, il y a eu le Covid et donc plus moyen de voyager. L'auditoire était attentif au récit merveilleux et idyllique d'une civilisation qui avait su mettre le transport à deux roues au cœur de ses déplacements urbains. Quand d'un seul coup, une voix d'ogre s'élève de l'assemblée et dit «
Oui, mais tu sais, petite terrienne, chez les Hollandais, le vélo, c'est dans leur gène. Ce genre de phrase me laisse sans voix et coupe court à mon récit féerique d'un monde peuplé de vélos et du rêve improbable que cela se concrétise dans mon royaume. Que répondre à cet ogre bougon et briseur de rêves? Faut-il sous-entendre que nous n'avons pas la même carte génétique pour la pratique du vélo dans le monde? Dans mon esprit, une fée m'apparaît et me conseille de faire quelques recherches sur l'autoroute du net afin de comprendre comment les Hollandais, nos amis voisins, ont pu développer grâce à leur gène, car c'est bien de cela qu'il est question, l'utilisation du vélo au cœur de leurs déplacements quotidiens. Eh bien, figurez-vous que ce gène s'appelle la loi LOR. Et oui, cette loi date du 30 décembre 1996. Il y a 24 ans, les Hollandais ont simplement mis en place cette loi qui vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé est reconnu à chacun. Et dans l'article 28, il est écrit « Le plan de déplacement urbain a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacement, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie, le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et le moins polluant, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied. » Je comprends enfin que les Hollandais n'ont pas un gène du vélo. Ils ont simplement mis en œuvre une loi qui s'adressait à tous les peuples, même dans mon royaume, sous la couronne du roi Jacques Chirac et du règne d'Alain Juppé. La morale de cette histoire ne sera pas heureuse pour une fois, et le méchant aura raison. Nos amis nordiques n'ont pas, comme l'ogre le croyait, le gène du vélo qui coule dans leurs veines, mais le gène de la sagesse et de l'altruisme. Je voudrais reprendre des propos de Paul-Émile Victor, scientifique, explorateur et écrivain qui date de 1975 et qui se battait pour la prise de conscience des humains concernant la pollution et qui est mort en 1995 avant de voir cette loi pointer le bout de son nez. Il classait les personnes dans trois catégories face aux problèmes généraux. Les aquabonistes. À quoi bon, on n'y peut rien, qu'est-ce que je peux faire dans un monde comme celui-là? Les obscuristes sécurisants, ceux qui disent qu'il y a toujours eu la pollution ou comme dans mon histoire que les Hollandais ont toujours fait du vélo. Et enfin les optimistes, il n'est pas trop tard pour faire quelque chose et qui sont catalogués de sinistros par les obscurantistes. Pour terminer ma chronique, j'emprunterai mes derniers mots à Hubert Reeves. Il n'y a qu'une seule morale qui vaille dans cette histoire, une seule donnée essentielle. Nous ne sommes que de dérisoires étincelles au regard de l'univers. Puissions-nous avoir la sagesse de ne pas l'oublier.
Oh, splendide, Céline. Bon, on n'a plus qu'à prier pour qu'il y ait une loi LOR en France et peut-être qu'elle pourrait s'appeler...
Elle y est déjà, en fait. Ah, quand ouais tu vas sur les sites internet, tu tapes la loi LOR et tu as tout le protocole depuis 1996. Tout ce qu'il fallait faire, tout ce qui était mis en place. Et en fait, les Hollandais, eux, ont sauté dessus, ont été visionnaires, se sont dit, bon, on va pas rester à rien faire par rapport à la pollution. Ils l'ont mis en œuvre.
C'est une loi européenne, en fait.
Oui.
Ok, j'avais pas capté. Je crois que c'était une loi hollandaise.
Non, elle a été mise en place dans toute l'Europe, mais il y a que les Hollandais qui l'ont vraiment utilisée. Ouais.
Ok, tu vois, moi, quand tu parlais de la loi LOR, au début, je crois que c'était juste une loi hollandaise, mais en fait, ça veut dire que la quasi-totalité des routes construites en Europe ces 25 dernières années ne répond pas aux normes de la loi LOR.
En fait, on aurait dû adapter les routes, et à chaque route construite, normalement, il doit y avoir une utilisation des moyens de transport non polluants, comme le vélo.
Alors, vous savez quelle grande ville française respecte le moins la loi LOR, c'est-à-dire la ville de plus de 200 000 habitants en France qui est le moins satisfaisante pour les cyclistes au classement de la FUB?
En train de chercher. Paris. Ah,
une grande ville. Plus de... Voilà, excellent, Marseille. Oui,
Marseille,
c'est je crois la 11e ville, 11e et dernière ville de ce classement. Et ben pourtant là-bas, il y a des militants vélo et ils se bougent les fesses. On est avec Nicolas de Aubagne qui se trouve dans la proche banlieue de Marseille. Salut Nicolas, comment ça va?
Oui, bonjour.
Alors Nicolas, tu es militant vélo au pays d'Aubagne. Déjà, oui. Comment elle s'appelle l'association
Action Vélo Pays d'Aubagne.
Pour faire une petite typologie, Aubagne, c'est une ville de l'agglomération marseillaise. Ouais. Et puis, ça compte 50 000 habitants. Je t'avoue que moi, j'ai pas forcément une bonne image des conducteurs marseillais et donc d'Aubagne et tout ça. Et j'aurais peur de faire du vélo à Aubagne. Est-ce que c'est juste moi qui ai une mauvaise perception ou est-ce que c'est un petit peu vrai?
C'est totalement vrai.
Ah bon?
Tu peux même considérer que c'est le niveau ultime de Grand Theft Auto, de GTA.
Ok, d'accord.
Oui, en tant que marseillologue, aubagnologue, je peux le confirmer.
Qu'est-ce que vous faites pour la cause du vélo, du coup, à Aubagne ?
Donc, l'association est née en 2012, Action Vélo. Elle est née d'une autre association qui s'appelle Eco-Réseau, qui était beaucoup plus ancienne. Elle promeut l'image du vélo. Il y a 3 ateliers vélo par semaine. Ben, ça s'est surtout accéléré après le confinement. Avant le confinement, nous avions un atelier bimensuel, donc une fois tous les 15 jours, le dimanche matin, à côté de la place du marché. Et maintenant, après le confinement, donc non seulement il y a eu la corona piste, on va dire ça, et également la possibilité d'utiliser le buffet de la gare, qui est un bâtiment abandonné de la gare d'Aubagne, pour l'utiliser comme la maison du vélo.
Vous avez une maison du vélo, la chance.
Oui,
tu sais qu'il n'y a pas toutes les villes de 30 000, 40, 50 000 habitants qui ont une maison du vélo. Hein.
C'est le confinement et l'année, on va dire, l'année 2020 et l'année du vélo, a fait en sorte que nous ayons enfin les clés et que nous puissions nous y rendre 2 fois par semaine pour accueillir le public et effectuer des ateliers de co-réparation. En plus de l'atelier du samedi matin, qui lui est sur la place de la ville.
Et est-ce que l'association a des projets pour le futur, des idées, de choses à faire ?
Immatriculer des vélos, faire en sorte aussi de sécuriser les voies, de développer les pistes, former des personnes, parce que par exemple, il y a lors des sorties pédagogiques.
Quelle relation vous avez avec la collectivité, les élus ?
Il y a une commission avec la ville. Nous avons des rendez-vous réguliers. Ça s'appelle la commission circulation.
Et est-ce que à l'association, vous avez un événement, un petit truc un peu original ou une action originale que vous faites ?
Alors, le dernier vendredi du mois, c'est Vélo Guinguette.
Donc, Vélo Guinguette ?
Ouais. Donc, avec des repas sortis du sac, on part à chaque fois avec un itinéraire différent.
Ouais.
Et on va manger quelque part. Et c'est arrivé aussi qu'il y ait des vélos ciné. Donc avec tout l'appareillage, avec l'écran de projection pour regarder un film avec les vélos à côté et en mangeant.
T'es confiant pour l'avenir ?
Je me dis que vu le bond en avant qu'il y a eu cette année, là, on pourrait même dire Action Vélo Go, je suis confiant concernant la société post-carbone, oui. Parce que ça se développe de plus en plus et des personnes qui ne s'intéressaient pas du tout au vélo commencent à venir à des ateliers. Même mon garagiste pourrait même dire que c'est un carbo-fasciste. Il vient aux ateliers vélo de temps en temps.
Alléluia.
Aioli. Et oui, parce qu'on est à Hollywood, c'est normal.
Merci Nico, à plus.
Salut.
Eh ben, ils sont courageux quand même, les militants cyclistes d'Aubagne. C'est bien qu'il y en ait, c'est super. On va faire un autre tour de courage avec un gars qui est un sacré furieux et qui a fait un truc super drôle. Mika, de quoi tu vas parler ?
Aujourd'hui, on va parler du projet un peu fou de Camille Ginsteburger. Cette habitante de Soucieux-en-Jarret, près de Lyon, adepte
Attends,
du...
c'est quoi le nom de son village ?
Soucieux-en-Jarret.
En Jarret.
Près de Lyon, adepte du vélo et de la course d'orientation, a souhaité faire un tour de France un peu particulier en reliant de nombreuses villes. Ces villes ont toutes un point commun, elles possèdent des vélos en libre service. L'objectif de Camille, c'était donc d'aller dans ces différentes villes pour y essayer les vélos en libre service, pour faire un retour sur leur utilisation, mais aussi et surtout s'évader et faire des rencontres. Brive, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Brest, Le Havre, Amiens, Dunkerque, Colmar, Lyon, et j'en oublie.
Tous les vélos de France, quoi.
Il en a fait beaucoup, surtout au nord de où il vit, en tout cas. Ce jeune homme de 78 ans, passé entre le 12 et le 26 octobre dernier, est passé par toutes ces villes. Au total, il a fait 2400 kilomètres. Alors, une partie en vélo lorsqu'il était dans les villes, mais aussi et surtout en covoiturage pour relier les villes les unes aux autres. Covoiturage qui donne lieu à quelques anecdotes, d'ailleurs, comme la fois où Camille a rejoint Colmar en compagnie d'un lapin, d'un chihuahua, d'un covoitureur pompier, chasseur de guêpes et de frelons. Alors l'histoire dit pas de quoi ils ont parlé dans la voiture, mais ils ont pas dû s'ennuyer. Ce grand-père hyper connecté donc a pu donner des nouvelles de son aventure à ses proches par différents groupes WhatsApp et sur Facebook. Il a aussi partagé son périple via des podcasts, avec une radio associative sur Lyon, je crois. Car comme il aime le dire, c'est un plaisir de montrer à mes petits-enfants que papy est encore en vie.
C'est bien, mon gars!
Et le résultat, donc, dans tout ça, selon lui, il y a 3 villes qui tirent leur épingle du jeu. Tout d'abord, Bordeaux, avec le V-Cube. Il a particulièrement apprécié le fait que les stations soient en continu jusqu'en banlieue, et souligne la plus-value de la multimodalité à Bordeaux. C'est vrai que pour ceux qui sont déjà allés à Bordeaux, pour désengorger la ville, ils ont mis beaucoup de parkings en périphérie.
C'est le V-Cube le nom du... V-Cube.
Et ces parkings-là, vous payez le parkmètre et vous avez un billet de tram qui vous est offert pour rejoindre le centre-ville. Donc cette multimodalité, elle est assez appréciée. Ensuite, La Rochelle, ville pionnière dans le domaine du vélo en libre-service, puisque c'était les premiers à le faire en 1976. Ils appelaient ça les petits vélos jaunes. Ils appréciaient là-bas le nombre de vélos disponibles et l'accessibilité de l'application qui favorise grandement l'utilisation du service. Enfin, plus étonnant, Amiens. Le confort du Vélam a plu à notre septuagénaire, ainsi que le nombre de stations. Camille a donc terminé son périple le 26 octobre, juste à temps pour le deuxième confinement. Il a déjà des idées. Quand on lui rendra sa liberté, il partira de la même façon pour faire le tour des villes du Sud. On lui souhaite de poursuivre ses aventures encore longtemps et nous montrer, comme il le dit, que l'on peut tout faire à tout âge.
Tiens, on va lancer un jeu, ça va m'éviter de faire des recherches. Combien y a de systèmes Vélib en France? Vous répondez en commentaire de l'émission. Combien y a de systèmes Vélib en France dans combien de villes? Même moi, je ne connais pas la réponse pour l'instant. On va essayer de trouver. Je vous propose qu'on fasse une petite lecture. C'est Quentin qui nous lit un truc sur les cyclistes qui finalement sont pas si écolo que ça à l'origine.
Le pays de Gex. Descente de la faucille. L'aubergiste de la faucille nous poursuit encore de ses malédictions parce que nous ne sommes pas enchantés de l'hospitalité du lieu. Et déjà, nous dévalons vers Gex, non par la diligence courant de lacet en lacet, mais par le sentier rapide et rocailleux, tracé au pied du mont Turet. La route est loin au-dessus de nous, semée de petits nuages de poussière soulevés par le fagot de sapin attaché derrière chaque bicyclette. Et il y en a, aujourd'hui, de ces machines. On a failli voir la forêt disparaître à la suite des coupes désordonnées des cyclistes, chacun d'eux allant trancher un sapineau pour servir de corps mort destiné à ralentir la course. Le service forestier s'est ému. Des écriteaux prient les vélocipédistes de ne pas couper de petits sapins. À la faucille même, un industriel s'est mis à vendre des arbustes provenant des éclaircies. Malgré ce frein barbare, mais sûr, les machines descendent sur cette route superbe avec une prodigieuse rapidité. Leurs cavaliers, obligés de veiller aux obstacles et aux détours, ne voient rien du paysage. Ils n'ont que la griserie de la course. Le piéton, au contraire, a sans cesse sous les yeux l'admirable panorama de la plaine de Gex. Du lac étincelant, des Alpes majestueuses. Et, quand il a fini la descente de plus de 700 mètres de différence d'altitude, il peut jouir du spectacle heureux de cette belle campagne, bien cultivée, parsemée de vignes, ombragée de noyers, au milieu de laquelle la gentille bourgade de Gex égrène ses trois quartiers.
Ouais, bah nos ancêtres, hein, les premiers cyclistes, c'était pas forcément des amoureux de la nature. Enfin, si, ils aimaient bien s'y promener, mais ça coupait de l'arbre quand même derrière. Hein. À propos de promenades, il y en a qui font des grandes, grandes promenades en vélo, et des fois, ils ont besoin de prendre des douches chaudes, Camille.
Pour ça, je vais vous parler d'une bonne solution qui s'appelle Warm Showers. Donc, c'est un site internet. Le principe, c'est de l'hébergement solidaire entre cyclistes. Donc, à l'heure où rien n'est gratuit, quelque chose qui repose sur l'entraide humaine et des intéressés, c'est juste magnifique.
C'est l'utopie, ça n'existe pas, ça, non?
J'en parle parce que je l'ai vécu. J'ai été hébergé et j'ai accueilli chez moi plusieurs fois des cyclistes. Le principe, on passe une nuitée chez un hôte, on partage un repas, on profite d'une douche et on a un lit ou un canapé ou parfois même juste une tente, enfin une place
jardin,
dans le jardin, mais quand c'est l'aventure, voilà, faut pas non plus trop de confort.
Ouais.
On essaye de pas arriver les mains vides. On ne donne pas d'argent à l'hôte. En revanche, l'inscription, si elle était gratuite avant, elle est maintenant payante. Elle coûte $30, donc 24,75 pour nous. Et pour ce que ça fait râler, j'ai calculé, si vous faites un voyage de 15 jours, ça reviendrait à 1,65 € la nuit. Donc contre des campings ou Airbnb, c'est largement valable et rentabilisé.
Ouais, c'est moins cher que juste une nuit d'hôtel, de toute façon.
Déjà. Ouais. J'y pensais même pas à l'hôtel quand tu voyages en vélo. Donc on participe à la vie de la maison. On aide à la cuisine, on aide à la vaisselle. Moi-même, j'ai des fois des cyclistes qui m'ont gardé mes enfants pour que je puisse prendre une douche tranquille.
C'est bon, ça.
Quand j'ai été hébergée, quand je suis repartie, il y a mes hôtes qui ont voulu faire un bout de chemin avec moi, qui m'ont donné des légumes de leur potager. Le grand avantage à part être hébergé, c'est quand même de partager nos expériences, nos anecdotes, nos astuces et nos idées de trajet. Bon, pas des formidables soirées, j'ai vraiment eu que des bonnes expériences avec ce site, des belles rencontres.
Puis en plus, tu es hébergé chez des gens qui connaissent le coin, qui peuvent te dire peut-être, tiens, bah, ouais, passe par là, la route est plus sympa, tu peux voir ce petit truc-là.
C'est exactement sympa. Ça. C'est ce qui est, ça m'est arrivé. Qu'on peut être seul, on peut être en couple, ou en famille même. On est à un système d'évaluation des hôtes. Donc ça peut rassurer, voilà, quand on est une femme seule, qu'on peut être hébergé chez un homme, on a besoin de savoir chez qui on tombe, voilà. Donc c'est rassurant. Le site, il n'est pas que français,
c'est international.
Il existe à travers 161 pays, et il y a 17 langues, donc on peut voyager encore plus loin.
Génial, donc la Corée du Nord, la Syrie, enfin des trucs...
J'ai pas regardé...
Non, je rigole.
partout, j'ai pas testé dans les autres pays. En revanche, est-ce que vous avez testé ce site?
Non, j'ai pas essayé.
Pas du tout, non.
Moi, oui, j'ai pu héberger. Je me suis pas fait héberger. J'ai pas fait de voyage à vélo récemment. Mais j'ai pu héberger deux sœurs qui faisaient la vélocénie, donc qui je rejoignais le Mont Saint-Michel depuis Paris. Et donc, faisant partie des villes étapes. Elles sont venues à la maison. Je suis allé à leur rencontre sur la voie verte avec ma fille dans le vélo cargo et j'étais en vacances. Donc le lendemain, j'ai pu faire une quinzaine de bornes avec elles.
Putain, mais t'es un gars sympa. T'es allé les chercher carrément.
Oui, je suis sympa.
C'était des Françaises ou c'était... parce qu'il y a des gens qui font le tour de l'Europe.
Oui, c'était des Françaises, mais alors il y en avait une qui habite en Écosse. Elles ont grandi en Amérique. On parlait français, hein, parce que moi, de toute façon, je parle pas d'autres langues.
Ouais.
Donc, comme ça, c'était réglé. Mais ouais, très sympa.
Et si on veut s'inscrire... Enfin, moi, ça me plaît.
Oui.
J'ai envie soit d'être accueilli en warm shower, soit d'accueillir. Uh-huh. C'est quoi la démarche?
Tout simple. Tu rentres ton nom, ton adresse, tu remplis un profil... si t'as l'habitude de voyager
warmshower.com
.org
.org
en fait.
D'accord,
par contre c'est en anglais, hein.
Et c'est tu peux choisir l'option français maintenant.
Ah bon, ouais. Moi quand j'ai
oui au début c'était parce anglais que, et c'était gratuit maintenant c'est en français.
Je m'en souviens que c'était en anglais, hein.
Voilà. Je l'avais fait aussi en anglais. Non, c'est bon, c'est plus facile maintenant.
Et c'est payant aussi quand tu veux juste accueillir des gens?
Oui. L'inscription, faut qu'ils vivent de leur truc. Donc, pour te dire, il y a 159 000 membres, mais il n'y a que 100 000 hôtes. Il y a plus de gens qui en profitent, en fait, qui l'accueillent.
Ouais, c'est comme tout. J'étais aussi des sites comme ça, Hospitality, Coach Surfing, tout ça. Ouais. Et c'est pareil, moi, j'ai accueilli du monde, mais un truc de fou. Par contre, moi, pour me faire accueillir ailleurs, mais alors, n'importe où, j'avais pourtant un bon profil parce que des tas de gens étaient venus chez moi, puis ils avaient mis des commentaires sympas. Mm. Par contre, pour me faire héberger à l'étranger, mais rien du tout. J'ai essayé dans je sais pas combien de villes à travers le monde entier. Alors, j'espère qu'au Warm Shower, c'est pas comme ça.
Peut-être
quoi.
Que parce que t'es un homme. C'est peut-être les gens sont plus frileux. Moi seule avec ma fille, j'ai
partout,
personne m'a refusé.
Ah, c'est génial.
Et alors l'idée aussi, c'est qu'on prévient pas 15 jours avant, on bloque pas les gens. Déjà, ils t'hébergent comme ça gratuitement.
Ouais.
C'est tu préviens la veille ou deux jours avant, quand t'es sur ton parcours, tu sais à peu près là où tu vas en être.
Et puis un voyage à vélo, tu peux pas savoir au jour le jour.
Oui,
où c'est
ça. Ou si t'as des emmerdes sur la route, t'es bloqué, quoi. Donc tu préviens, pas trop tôt quand même.
Le lien avec de tes questions de départ sur les chutes, je devais accueillir un deuxième Warm Showers. Il m'a appelé la veille pour me dire qu'il s'était vautré, lamentablement, et que à ce titre-là, il n'avait pas fait son voyage à vélo.
Ah mince.
Du coup, je l'ai jamais vu, mais on se verra peut-être un jour.
Peut-être qu'il recommencera. Alors, puis surtout que ça va se développer. Il y a des voies vertes qui se développent partout grâce à Covid et tout ça. Et là, nous enregistrons aujourd'hui à Alençon. Ça va se développer à fond parce qu'avec l'ouverture d'un nouveau tronçon d'une voie verte, on peut partir sur presque tout le Grand Ouest, Brest, Nantes, Mont-Saint-Michel. Donc peut-être que vous allez recevoir du monde en plus si vous êtes Warm Shower dans le coin. Eh ben, il est l'heure de se quitter, les copains. Ça va vachement vite, ces émissions-là. On se quitte en musique avec de la fanfare. Ça s'appelle Solo Tapant. N'oubliez pas de nous liker, de mettre des commentaires, de nous partager, de parler de nous, de faire rêver sur le vélo, de faire rêver de pause vélo. Soyez heureux et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo!